VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 21 septembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
En République démocratique du Congo, un embrun déterminé de morts pour la deuxième journée consécutive, hier à Kinshasa.
Le président français François Hollande appelle au respect de la Constitution et à la tenue des élections prévues en RDC.
Au Gabon, accord sur un recompte des voix de la présidentielle du 27 août, mais pas sur les modalités.
Ici aux États-Unis, violente manifestation à Charlotte en Caroline du Nord et aussi inculpation de l'auteur présumé des attentats de New York et du New Jersey.
Syrie, le ton est encore monté hier soir entre Américains et Russes après la frappe aérienne de lundi contre un convoi humanitaire près d'Alep.
Poursuite de la 71e Assemblée générale de l'ONU, nous retrouverons notre envoyé spécial Timothée de Nangmaï à New York.
New York, où Jacques Aristide s'est aussi entretenu avec le président du Niger, Mahamadou Issoufou.
Ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine, sans oublier notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
En RDC, des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont fait un nombre indéterminé de morts pour la deuxième journée consécutive hier à Kinshasa, où l'opposition réclame le départ du président Joseph Kabila et la tenue de la présidentielle. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Ces violences surviennent en plein dialogue national, tentative pour sortir la République démocratique du Congo de l'impasse électorale dans laquelle elle s'est retrouvée. La majeure partie de l'opposition qui rejette ce dialogue national avait appelé à manifester dès lundi, renvoyant pouvoir et opposition dos à dos. L'Église catholique a condamné fermement la violence d'où qu'elle vienne. La Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, a annoncé qu'elle suspendait sa participation à ce dialogue en cours par respect pour les victimes, pour faire le deuil et rechercher un consensus plus large. Les appels au calme lancés lundi soir par la communauté internationale n'ont pas été entendus. Selon des sources de sécurité privée, des sources diplomatiques et des habitants, une multitude d'affrontements entre forces de l'ordre et jeunes en colère a eu lieu pendant une grande partie de la journée dans les quartiers du centre et du sud de la capitale, les plus pauvres de cette mégalopole de 10 millions d'habitants habitués à la misère. Comme la veille, plusieurs symboles de l'État comme des postes de police ont été attaqués. Il y a eu aussi plusieurs pillages. Vers 19h30, 18h30 GMT, le calme semblait être revenu dans la plus grande partie de la ville.
Le président français, François Hollande, a appelé hier, depuis les Nations Unies, au respect de la Constitution en République démocratique du Congo et à la tenue des élections prévues dans ce pays, John Linden.
En marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le président français a déclaré que la Constitution de la RDC doit être respectée et les élections doivent s'éteindre. Il a dénoncé des violences inadmissibles, assurant qu'elles ont été provoquées par des exactions venant de l'État congolais lui-même. M. Hollande a ajouté que le principal parti d'opposition a vu son siège brûlé, soulignant que dans aucun pays, on ne peut accepter de tels agissements. Toujours depuis New York, Thomas Perriello, envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, a lancé un appel à la retenue. Il a réitéré la mise en garde de Washington contre le recours et l'incitation à la violence, précisant que les auteurs seront tenus pour responsables. Selon lui, la crise actuelle était évitable si le gouvernement de Kinshasa avait tenu à organiser les élections dans les délais constitutionnels et tout fait pour résoudre la situation de manière plus inclusive. M. Perriello a aussi déploré les menaces qu'il a subies il y a quelques jours de la part des membres de la majorité présidentielle à l'aéroport d'Ndjili à Kinshasa.
Au Gabon, les avocats d'Ali Bongo et de Jean Ping sont d'accord pour le recompte des voix de l'élection présidentielle du 27 août, mais ils ne s'entendent pas sur les modalités. La Cour constitutionnelle doit se prononcer sur le contentieux électoral dans les jours qui viennent. Des précisions avec Nani Talani.
Selon Maître Jean-Rémy Bansansa, avocat de Jean Ping, les partis sont tombés d'accord pour le recomptage des voix. Maître Francis Nkea, avocat d'Ali Bongo, confirme l'accord pour recompter dans quelques 2579 bureaux de vote dans les 9 provinces du pays. Cependant, les deux camps restent divisés sur la manière de mener cette opération. Un camp veut la confrontation des procès-verbaux alors que l'autre ne veut travailler que sur les procès-verbaux de la commission électorale. Le gros du litige porte sur le Haut-Ogooué, d'où est originaire Ali Bongo. Il y a obtenu 95% des voix avec 99% de taux de participation. Ceci lui a permis d'obtenir une avance d'environ 5000 voix. La proclamation de ces résultats provisoires avait provoqué de violentes manifestations. Jean-Ping a saisi la Cour constitutionnelle et les 9 juges de cette haute cour, dont la présidente, Marie-Madeleine Moronzo, dispose d'un délai de 15 jours pour trancher.
Amnesty International exhorte les autorités de Yaoundé à abandonner toutes les charges retenues contre 3 jeunes qui risquent 20 ans de prison au Cameroun. On leur reproche d'avoir partagé un message de plaisanterie portant sur le recrutement de jeunes diplômés par Boko Haram. Le tribunal militaire de Yaoundé doit prononcer ce 21 septembre le verdict du procès de Yamoussou Ivofé et de 2 de ses amis, dont un élève. Arrêté fin 2014, ils comparaissent depuis le 7 septembre pour complicité d'insurrection et non dénonciation.
Le Zimbabwe a annoncé hier que la fabrication, la vente et l'utilisation du drapeau national sans autorisation officielle pouvaient valoir 1 an de prison. C'était en réaction à l'utilisation du drapeau par des manifestants anti-Mugabe. Nathalie Barge.
Les membres du public qui participent à toute action avec le drapeau national ou le discréditent risquent des poursuites judiciaires, a déclaré la ministre de la Justice, Virginia Mabisa. Les contrevenants encourent une peine maximale d'un an de prison et une amende de $200. Le drapeau national est devenu un symbole de la contestation depuis la publication d'une vidéo en avril du chef de file de la contestation, Ivan Mawarire, portant le drapeau autour du cou. En août, les spectateurs d'un match international de cricket à Bulawayo ont agité le drapeau et chanté l'hymne national en guise de protestation. Un déploiement massif de policiers a empêché samedi à Harare la tenue d'une manifestation d'opposants au régime Mugabe qui réclame des réformes depuis des semaines.
Poursuite ce mercredi à New York de la 71e Assemblée générale de l'ONU. Le point avec notre envoyé spécial sur place, Timothée Donangmaï.
L'Afrique à l'honneur ce mercredi ici à New York avec la tenue du 2e Forum des affaires États-Unis-Afrique en marche de l'Assemblée générale. Ce sera l'occasion de mesurer le chemin parcouru 2 ans après le premier forum et de présenter les nouvelles possibilités d'investissement dans des secteurs comme l'énergie ou les infrastructures. Également à l'ordre du jour ce mercredi, un sommet sur le danger croissant de la résistance aux antimicrobiens. Les discussions doivent aboutir à l'élaboration d'un plan d'action international, d'autant plus que trop peu de nouveaux antimicrobiens, notamment les antibiotiques, sont mis sur le marché pour remplacer ceux qui ne sont plus efficaces. Rappelons que dans son dernier discours à l'ONU en tant que président mardi, le chef de l'exécutif américain Barack Obama a exhorté le monde à surmonter ses divisions. Il a par la suite présidé un sommet des leaders sur les réfugiés. Des engagements de l'ordre de 4,5 milliards de dollars y ont été pris pour un appui non seulement aux réfugiés et leur pays d'accueil, mais aussi leur pays d'origine. Timothée Donagmaï, New York, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, une violente manifestation a éclaté à Charlotte après qu'un policier a abattu un noir qui était, selon lui, armé d'un pistolet sur le parking d'une résidence de la ville de Caroline du Nord où la police recherchait un suspect. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées près du lieu de la fusillade et ont lancé des bouteilles et des pierres en direction des forces de l'ordre. Une dizaine de policiers ont été blessés et plusieurs véhicules endommagés, selon la police de Charlotte-Mecklenburg. Les manifestants et la famille de la victime, répondant au nom de Keith Lamon Scott, conteste le fait qu'il était armé, certains affirmant qu'il avait un livre à la main, ce qui a relancé en tout cas le débat sur les violences policières envers la communauté africaine-américaine.
Par ailleurs, le suspect des attentats de New York et de New Jersey, Ahmad Khan Rahami, a été inculpé hier d'utilisation d'armes de destruction massive. Selon un procureur de l'État de New York, Rahami, âgé de 28 ans, a également été inculpé des chefs d'attaque à la bombe d'un lieu public, de destruction de biens privés et d'utilisation d'un engin de destruction pour commettre un crime violent. Lundi, il avait déjà été inculpé de tentative de meurtre sur des policiers.
La Syrie a replongé dans le conflit qui l'ensanglante depuis 5 ans après l'échec du dernier cessez-le-feu. Le ton est encore monté hier soir entre Américains et Russes suite à une frappe aérienne lundi près d'Alep contre un convoi humanitaire. Ce raid a coûté la vie à 20 personnes, dont un responsable du Croissant Rouge, et a provoqué un tollé international. La Maison-Blanche a dit tenir le gouvernement russe pour responsable, soulignant que seul Moscou où le régime syrien pouvait être à l'origine de bombardements. Damas et Moscou ont démenti toute responsabilité.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco. Claire Morin-Gibourg.
La conférence annuelle AFT, Africa Forward Together, de MCB, la première banque mauricienne, s'est ouverte hier à Maurice. Pendant une semaine, la MCB accueille une quarantaine de banques et d'institutions africaines pour les convaincre d'externaliser certains de leurs services à Maurice. La MCB se positionne depuis quelques années déjà comme une banque des banques qui propose sa technologie et son réseau de partenaires aux autres banques africaines. Le bilan du second forum Sultani Mukutano, qui vient de fermer ses portes à Kinshasa, est très positif. Cette année, ce rassemblement annuel des entrepreneurs de la RDC a ouvert ses portes aux chefs d'entreprises africains. Résultat, 300 entrepreneurs se sont rencontrés afin de favoriser, je la cite, des synergies d'affaires en Afrique, selon Nicole Soulou, initiatrice de ces rencontres. L'hebdomadaire Jeune Afrique précise que la mise en place d'un code de déontologie dans le monde des affaires a été évoquée, mais aussi pour la création d'un fonds d'investissement destiné à financer les PME congolaises, ainsi qu'une université d'élite. Joseph Boguifo, le président de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, veut que la Côte d'Ivoire s'inspire du modèle marocain en mettant en place une banque exclusivement dédiée aux PME, ce qui faciliterait l'accès au financement, rapportent nos confrères de l'agence APA. En Côte d'Ivoire, les PME représentent 98% du tissu économique formel, 20% de la richesse nationale, 12% de l'investissement et 23% de la population active.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Voilà, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Yaya Touré met une croix sur sa carrière internationale.
La star ivoirienne du football évoluant au sein de Manchester City a déclaré hier qu'il était arrivé au terme de son aventure avec la Côte d'Ivoire. Yaya Touré, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, a fait l'annonce sur son compte Twitter. Après 14 ans au plus haut niveau avec les éléphants, je suis arrivé au terme de mon aventure avec la Côte d'Ivoire. Je dois passer le témoin aux plus jeunes, écrit le milieu de terrain ivoirien. Yaya Touré totalise 113 sélections avec la Côte d'Ivoire depuis ses débuts en 2004. Il ajoute que la rédaction de ce communiqué a été le match le plus difficile de sa vie. Le joueur qui a fait partie de la génération dorée ivoirienne avec son frère Kolo Touré ou encore Didier Drogba et Gervinho assure que le trophée le plus important de sa carrière est le titre de champion d'Afrique décroché lors de la CAN 2015.
Le Ballon d'Or sera dévoilé avant la fin de l'année.
Le Ballon d'Or revenu dans le giron exclusif de France Football, le magazine sportif français, après l'arrêt du partenariat avec la FIFA, eh bien le Ballon d'Or sera dévoilé avant la fin de l'année civile. C'est ce qu'a annoncé hier l'hebdomadaire, sans donner plus de détails. On rappelle que depuis 2010, l'Argentin du Barça Lionel Messi et le Portugais du Real Madrid Cristiano Ronaldo se partagent la distinction individuelle suprême sans conteste.
Kalidou Koulibaly prolonge à Naples.
Très courtisé cet été par de grands clubs européens, notamment Chelsea, Kalidou Koulibaly a annoncé qu'il avait finalement prolongé son contrat de 2 années supplémentaires avec son club de Naples. Le défenseur sénégalais de 25 ans était engagé jusqu'en 2019 avec Napoli. Son bail le lie désormais au club italien jusqu'en 2021.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédunia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, un calme relatif a été observé hier soir à Kinshasa au deuxième jour des manifestations de l'opposition qui exigent le départ de Joseph Kabila à la fin de son mandat. Pour protester contre les morts enregistrées, des jeunes ont barricadé des routes, brûlant des pneus, et les activités sont restées paralysées dans la capitale congolaise. Reportage de Dominique Dinanga de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Globalement, la vie a repris timidement à Kinshasa après une deuxième journée consécutive de violences. Dans plusieurs quartiers de la capitale, des heurts entre groupes de jeunes et policiers ont été signalés. Des jeunes sont encore sortis pour manifester leur colère à la suite des morts enregistrées lundi, 17 à 50 selon des sources discordantes. Mais pour cette deuxième journée, aucun bilan officiel n'a été avancé. Côté acteur politique, des appels au calme et à la retenue se multiplient. L'opposant Vital Kamerhe appelle le rassemblement et la majorité présidentielle à se dépasser et à entamer un dialogue parce que la violence n'a jamais rien résolu.
La violence, c'est l'antithèse de la démocratie. Aujourd'hui, je lance un appel pathétique à tous les leaders politiques, de l'opposition comme de la majorité, de la société civile, à un dépassement de soi pour que nous reprenions la main et que nous puissions indiquer la voie de la raison à notre peuple.
Tous les sujets sont abordés au dialogue d'après Henri Movasakani, le secrétaire général du PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, parti présidentiel, regrette qu'il y ait eu autant de morts pour en arriver à l'évidence de la nécessité du dialogue que le président Kabila appelle de tous ses voeux.
Les gens qui sont venus au dialogue, qui sont de l'opposition, ont posé des questions beaucoup plus dures. Où veut-il que le président le dise? S'ils ont besoin de le lui demander, qu'il vienne au dialogue et au cours du dialogue, ils disent « on a besoin que le président mette ceci, mette cela ». Comme les autres qui sont là, qui ont posé des questions beaucoup plus compliquées qu'elles ne le pensent.
Par contre, Olivier Kamitatou, autorité morale de l'Alliance pour les Renouveau du Congo, membre du G7 et du Rassemblement, estime lui que c'est le président Joseph Kabila qui détient la clé du dénouement de la crise. Olivier Kamitatou demande au chef de l'État de se prononcer clairement qu'il n'ébriguerait pas un troisième mandat.
Le chaos dans lequel la République démocratique du Congo se dirige doit nous interpeller au premier chef, le président Joseph Kabila, qui doit absolument aujourd'hui sortir de son silence, et bien qu'il ne briguera pas un troisième mandat, qu'il est soucieux du bonheur du peuple congolais et qu'en conséquence, il appelle les grands acteurs à discuter avec lui des modalités qui permettront de sortir de la spirale de violence.
Et pendant ces temps, l'Église catholique a suspendu sa participation aux travaux du dialogue national. Selon le secrétaire général adjoint de la Conférence épiscopale nationale du Congo, il est important pour les évêques de faire les deuils de mort enregistrés lors de manifestations de lundi et mardi. Il plaide encore pour une inclusivité à ces forums afin d'aboutir à un consensus important.
La CENCO considère que le sang de nos frères et sœurs qui a coulé respect pour la Constitution nous interpelle. Alors par respect pour eux, la CENCO a décidé de suspendre sa participation au dialogue pour faire le deuil et rechercher un consensus plus large.
Kinshasa, Dominique Dinanga de Top Congo FM pour VOA Afrique.
VOA Afrique, 24h/24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Au Burkina Faso, la justice a procédé récemment à l'interpellation d'anciens ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Ces derniers ont été entendus par la gendarmerie avec un mandat de dépôt pour l'ancien premier ministre dans l'enquête sur la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014 au Burkina Faso. Les détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Les ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré ont été entendus sur leur implication dans l'insurrection populaire d'octobre 2014 à travers le Conseil des ministres autorisant la modification de l'article 37 de la Constitution sur la limitation des mandats. Parmi les ministres auditionnés figurait notamment celui en charge des réformes politiques, Arsène Boyer-Sanghié, mais également le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement d'alors, Alain-Édouard Traoré. Selon plusieurs sources, les gendarmes ont voulu savoir le rôle joué par la dizaine de ministres interpellés dans l'avènement de l'insurrection et sa répression. Si certains sont pour l'instant libres de leur mouvement, l'ancien premier ministre Luc-Adolphe Thiaw a lui été incarcéré après son audition. Il lui a notamment reproché la signature d'une réquisition autorisant l'armée à maintenir l'ordre avec usage d'armes à feu. Cette inculpation intervient quelques jours après la libération provisoire du colonel Sidi Paré, ancien ministre de la Transition, débarqué pour son soutien au putsch du général Gilbert Dindiéré. Toute chose qui justifie méfiance au sein de la société civile. Hervé Ouattara, leader du CAR, citoyen africain pour la Renaissance, fut le dernier leader qui avait rencontré Blaise Compaoré au plus fort de la contestation.
Est-ce que ce n'est pas une façon pour notre justice ou même pour le gouvernement, en libérant Sidi Paré, il faut le remplacer bien sûr par quelqu'un pour éviter la vindicte populaire. Pour être franc, c'est du folklore. Nous sommes habitués à cette tergiversation. Aujourd'hui, rien ne nous rassure, rien ne nous dit que nous allons finalement connaître réellement ce qui s'est passé le 30-31.
Marcel Tankwano, président du mouvement du 21 avril, le M21, légèrement blessé lors de la marche sur le palais de Kossiam, quoique sceptique, se veut plus mesuré.
D'abord, on dit que mieux vaut tard que jamais. Et Luc-Adolphe Thiaw avait signé la réquisition spéciale qui avait demandé à ce qu'on mate des Burkinabés. Je pense que c'est une occasion que la justice burkinabé doit saisir que véritablement on peut faire confiance à cette justice burkinabé.
La population, elle aussi, suit de près l'évolution de la situation avec des points de vue divers.
Plein de choses se sont passées sous nos yeux. On n'a pas eu de justice complète. Donc, on ne peut pas avoir confiance à cette justice-là.
On n'a qu'à laisser la justice là en même temps. Il faut que les pays là, ça n'a qu'à avancer vite. Sinon, comme ça, là, ça nous met en retard.
Il y a des gens qui sont morts. Donc, la justice là, il faut faire ça. Les gens qui ont commis les crimes là, il faut les sanctionner.
Ces instructions sont conduites sous la tutelle de la Haute Cour de justice, une institution qui promet d'en dire plus dans quelques jours sur ce rebondissement, scruté 2 ans presque après les faits par l'ensemble des Burkinabés et de la communauté internationale. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
À New York, où il est venu participer à la 71e Assemblée générale de l'ONU, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, profite de son séjour dans ce grand centre économique et financier américain pour tenter d'attirer les investisseurs chez lui. Jacques Aristide a demandé à M. Issoufou de lui parler des réformes et changements que Niamey a initiés pour créer un meilleur climat des affaires.
Bien, je vous remercie. Je dois dire d'abord que le Niger a une économie dynamique. Ces 5 dernières années, le taux de croissance annuel de l'économie du Niger a été de 6%. Et nous prévoyons pour les 5 années à venir un taux de croissance de 7%. Et c'est pour cela que, ici à New York, j'ai essayé de sensibiliser les investisseurs pour qu'ils viennent profiter de ce taux de croissance que connaîtra le Niger les années à venir. Je les ai invités à venir investir dans beaucoup de secteurs, dans le secteur des infrastructures, dans le secteur des ressources naturelles, dans le secteur de l'agriculture. Et je leur ai indiqué également que nous avons un bon environnement des affaires au Niger. Nous avons un bon climat des affaires. Il y a beaucoup de réformes qui ont été entreprises et qui sont mises en œuvre dans le cadre du Doing Business. Par exemple, la facilité avec laquelle aujourd'hui on crée les entreprises au Niger, on a simplifié les procédures, on a réduit les coûts, on a réduit les délais de création d'entreprises. Nous avons également entrepris des réformes dans beaucoup d'autres domaines, comme le domaine de transfert, par exemple de la propriété, c'est important pour les investisseurs, comme le domaine de l'exécution des contrats, nous avons mis en place dans le pays des tribunaux de commerce, ce qui n'existait pas auparavant. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été entreprises dans le domaine du commerce transfrontalier, des simplifications de procédures pour les importations ou les exportations, des réductions de contrôle, par exemple, sur les routes. Mais enfin et surtout, nous avons fait beaucoup de réformes fiscales. Le code général des impôts a été révisé. Et il est très incitatif, ainsi que le code des douanes, ainsi que le code des investissements, le code pétrolier, le code minier. Nous avons donc vraiment des facilités fiscales, des incitations fiscales très importantes pour les investisseurs, et je pense qu'ils l'ont compris.
Le président américain organise ce mercredi son dernier forum des affaires, États-Unis-Afrique. Alors, si on peut le dire ainsi, c'est un sommet de Barack Obama avec son dernier, son ultime sommet avec les dirigeants africains avant qu'il ne quitte la Maison-Blanche. Qu'attendez-vous de cette rencontre, de cette réunion?
Ce que j'attends de cette rencontre, c'est que les investisseurs américains soient plus agressifs, viennent davantage investir en Afrique de manière générale et au Niger en particulier. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. On voit bien aujourd'hui, les pays africains font partie des pays du monde qui ont les taux de croissance économique les plus élevés. Donc nous invitons les investisseurs américains à venir partager cette croissance avec nous.
Le président du Niger, Mahamadou Issoufou.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
C'est l'heure de parler politique américaine sur VOA Afrique à moins de 2 mois de la présidentielle du 8 novembre. On retrouve Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Drissa.
Les attaques de New York et du New Jersey, toujours au cœur de la campagne présidentielle américaine.
Les deux candidats qui s'accusent mutuellement d'augmenter le risque d'attaques terroristes sur le territoire américain. Hier, depuis la Caroline du Nord où il était en meeting, Donald Trump a estimé que la politique d'Hillary Clinton en matière d'accueil des réfugiés était trop faible. Il a également critiqué la rhétorique de la candidate démocrate.
I have news for Hillary. Refusing to call out radical Islam.
J'ai de nouveau pour Hillary. Refuser de parler d'islam radical ne va pas diminuer le danger, mais au contraire, cela va l'accroître et le renforcer, comme on l'a vu lors de son mandat raté de secrétaire d'État.
Donald Trump, qui s'exprimait hier depuis High Point, en Caroline du Nord. De son côté, Hillary Clinton a répliqué que son adversaire républicain était devenu un sergent recruteur des terroristes à cause de sa rhétorique et que Donald Trump n'avait aucun plan pour battre le groupe État islamique. On l'écoute.
Je suis la seule candidate dans cette élection qui a pris part au difficile processus pour éliminer les djihadistes du champ de bataille. On sait que la rhétorique de Donald Trump est utilisée par les terroristes et surtout le groupe État islamique qui cherche à présenter la situation comme une guerre contre l'islam.
Hillary Clinton, qui s'exprimait lundi depuis Philadelphie, a noté que côté démocrate, aucun événement public officiel prévu hier, ni pour Hillary Clinton, ni pour son colissier Tim Kaine.
La candidate démocrate marque une pause pour se préparer à son débat avec Trump lundi prochain, mais elle continue de dépenser beaucoup plus que son adversaire sur les ondes.
L'ancienne secrétaire d'État américaine a dépensé 5 fois plus en publicité que le milliardaire new-yorkais, 96 millions de dollars contre 17 millions. L'écart est encore plus grand, Idrissa, si vous ajoutez tous les groupes de soutien extérieur qui ne sont pas gérés directement par les candidats. Au total, 156 millions pour les pro-Clinton contre 33 millions pour les pro-Trump.
Et enfin, la polémique du jour.
Et elle enfle Donald Trump Jr. qui compare les réfugiés syriens à des bonbons empoisonnés. Un parallèle douteux qui fait toujours bondir les internautes et réagir la classe politique américaine. Le fils du candidat républicain qui demande dans son programme de mieux tracer, voire bloquer l'arrivée des migrants aux États-Unis, faisait cette comparaison pour évoquer l'Américain d'origine afghane suspecté d'être le poseur de bombes de New York.
Merci Nicolas Pineau. La campagne présidentielle américaine, c'est à retrouver dans un dossier spécial sur voafrique.com.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anna Butson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedounia à Washington.